le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Pourquoi développer des logiciels libres? Pourquoi publier sur Wikipédia? Pourquoi choisir un habitat participatif? Quels intérêts ces personnes, ces communautés trouvent-elles dans ces projets en commun? Au-delà de ces intérêts particuliers, quels sont les intérêts politiques, économiques et sociologiques pour tous de ces communs? Nous poursuivons dans cette troisième et dernière émission la conversation avec nos invités. Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO, membre du LABERS, laboratoire de sociologie de l'UBO, auteur d'une thèse en cours sur l'habitat participatif. Michael Lavenne, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, membre du LabLex, laboratoire de droit, auteur d'un article sur la facturation de services de police aux collectivités locales. Et Nicolas Julien, enseignant-chercheur à IMT Atlantique, auteur de « Les conditions d'existence d'un commun numérique de connaissances ». En dernière partie d'émission, vous pourrez également retrouver notre séquence « Les questions du public ». Dans les deux premiers numéros de cette série du Lab U consacrée aux communs, nous avons défini les communs et sondé les intérêts particuliers des acteurs et des communautés à agir. Intéressons-nous maintenant à l'intérêt pour tous de la création de communs. Nicolas Julien ouvre le débat.
Alors, et là je pense qu'on va rejoindre le débat finalement sur le domaine public ou sur quel est l'intérêt pour une société humaine de permettre à des individus ou à des groupes de faire des choses ensemble et quel impact il y a sur ces faire ensemble sur l'ensemble de la société. Alors, il y a plein de collectifs, hein. Il y a des associations, il y a des entreprises qui ont des règles différentes, les administrations, c'est aussi des collectifs, enfin, il y a énormément de collectifs. En fait, on est en permanence en tant qu'humain intégré dans des collectifs et des groupes qui font des choses ensemble. Donc on est là sur des questions qui ne sont pas seulement celles des communs tels qu'on les a définis, des biens ou même de l'occupation de l'espace public. On est, et c'est pour ça que c'est aussi une question politique, c'est une question du comment on fait pour faire ensemble, comment on fait pour vivre ensemble et à quel niveau on est le mieux pour discuter de faire ensemble. Je pense qu'on n'a pas le temps de résoudre tout, d'en discuter de manière trop générale, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, c'est un petit peu ce que dit Pierre aussi, c'est qu'à partir du moment où des groupes de gens se mettent ensemble et créent quelque chose qui devient visible, eh bien, ils rentrent en interaction avec d'autres choses qui existent à côté, d'autres institutions qui vont échanger. Donc, un exemple, pour ne pas être trop long, Wikipédia, c'est une aventure humaine formidable. Il y a des gens qui s'investissent dedans, il y en a d'autres qui régulent, il y a des machines qui régulent. C'est le plus grand projet humain qui a existé en termes de personnes qui sont impliquées. Enfin, peut-être pas le plus grand, Walmart, c'est peut-être le plus grand. Mais en tout cas, il y a énormément de gens qui se sont impliqués dans ce projet-là. Est-ce que ce projet-là, il est uniquement bénéfique? Est-ce que, parce que c'est une aventure qui fonctionne, la société ou personne n'a le droit de le contester? Évidemment non. On peut critiquer Wikipédia, vous le savez bien, qu'il est critiqué parce qu'il ne fait pas assez de place à certaines minorités. On peut critiquer aussi Wikipédia parce qu'il a un monopole sur la connaissance aujourd'hui qui peut être dangereux en termes de pluralité, etc. Donc la société est en droit de critiquer ça et de discuter cette organisation qui a pris une place institutionnelle. Critiquer ne veut pas dire fermer, critiquer ne veut pas dire... Mais en tout cas, on a le droit d'en discuter. Et je pense que c'est exactement ce qu'on est en train de dire sur les habitats partagés ou sur l'espace de l'occupation du domaine public, c'est qu'il y a des activités humaines qui peuvent être faites ensemble et que dans d'autres activités humaines peuvent en profiter ou au contraire ne pas apprécier, qu'on a le droit d'en discuter et qu'il faut trouver les manières d'en discuter de manière apaisée ou raisonnable et peut-être aussi de trancher. C'est aussi pour ça qu'on a des institutions de droit et de juristes, ouais. Et pas seulement des juristes, mais aussi des juges, ou le Conseil d'État, ou la caisse de la Cour de cassation, ou la Cour européenne de justice, pour trancher aussi des débats. Mais c'est ce frottement-là qui est intéressant entre des activités, des initiatives, et puis d'autres activités ou d'autres initiatives.
Merci. Oui. J'ai posé la même question à Pierre. Au-delà de l'immeuble, de l'habitat participatif, au-delà de l'intérêt des gens qui y sont, qu'on a bien compris, est-ce que quelque chose d'autre, d'autres externalités, encore une fois pour reprendre ce terme des économistes, surgissent ? Est-ce que le quartier en profite ? Est-ce que la ville en profite ? Est-ce que le pays en profite ? Que se passe-t-il, ouais. Comment on pourrait défendre politiquement, en fait, cet habitat pour en faire quelque chose d'autre que de gens qui sont sur un bien club, pour reprendre. Est-ce que vous êtes un club ou vous faites plus que ça ?
Convainc-moi que vous êtes un commun, que vous créez de l'intérêt général.
Au-delà du club.
Ouais. Alors, un terme que du coup on peut utiliser beaucoup, c'est justifier. Comment on justifie, en fait ? Parce que les habitats participatifs on se justifie auprès toujours d'autres. Et là, il y a vraiment une grande différence entre un bien... ce que j'entends, moi, pour bien club, pour un habitat, c'est ce qu'on appelle une résidence fermée. Vous savez, les résidences fermées, sécurisées, qu'on trouve beaucoup en Amérique latine en particulier, ou aux États-Unis, en Grande-Bretagne.
Ou dans le 16e, hein, par exemple.
Et de plus en plus en France. Et de plus en plus, d'ailleurs, au départ, c'est plutôt des logements de riches, et puis c'est de moins en moins des... Enfin, ça descend de plus en plus en classe sociale. Et donc, quelle est la différence entre les habitats participatifs et les habitats... les résidences fermées? Et c'est une vraie question, hein. C'est une question qui n'est pas du tout si évidente que ça. Mais la réponse, elle est justement dans ce rapport-là. Alors, à ce qu'on peut appeler du bien commun, mais excusez-moi, c'est pas un jeu de mots, c'est dans le sens ce qu'on pourrait aussi appeler, ce que tu visiblement t'appellerais toi plutôt du bien public, c'est-à-dire ce que on justifie qui est bénéfique pour toute la communauté, dites-le comme vous voulez, ou pour toute la nation, ou pour tout le monde, quoi. Et en particulier, les habitats participatifs vont justifier leur habitat en disant « nous, on essaie de faire un habitat écologique ». Et donc, par exemple, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des panneaux solaires, qu'il y ait des matériaux écologiques, qu'on a un compost, et puis d'ailleurs, tout le monde mange bio. Enfin, dans tous les habitats participatifs, il est question d'écologie. Premier type d'intérêt. Deuxième type d'intérêt, de souci. J'appelle ça le souci du bien commun. Autre chose, on parle de souci de l'antispéculation. C'est pas vrai pour tous les habitats participatifs, mais il y a pas mal d'habitats participatifs, notamment le mien dans lequel j'habite. On a fait des statuts juridiques exprès pour que ça soit antispéculatif. Et c'est pas rien, ça veut dire que quand on revend notre logement, on s'assoit sur la plus-value potentielle qu'on peut faire sur notre logement. On peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas, c'est pour, dans le sens, c'est un objectif politique à se dire que la spéculation immobilière, on veut pas y participer en tout cas. Donc du coup, voilà, ça c'est un souci du bien commun. Je ne connais pas beaucoup de résidences fermées qui le font. On peut y avoir aussi un souci de l'animation territoriale. Il y a même toujours un souci de l'animation territoriale. Et puis on nous renvoie toujours à ça. Qu'est-ce que vous faites dans le quartier? Qu'est-ce que vous faites dans la ville? Etc. Que ce soit urbain ou rural. Et aussi un souci de la mixité sociale. Alors pareil, tous ces mixité sociale ou mixité générationnelle, tous ces soucis du bien commun, ça prend une forme différente selon chaque projet. Mais en tout cas, il n'y a pas un habitat participatif où il n'y a pas au moins un type de souci du bien commun. Sinon, c'est plus un habitat participatif. Et c'est en ce sens-là, alors après tu me diras, hein, peut-être que ça serait ma définition, mais que moi je dirais que c'est pas un bien de club, comme ça le serait par exemple dans une résidence fermée, où il y aura une piscine qui sera mieux, il y aura plus d'habités aussi, sans doute pour les habitants, mais il n'y aura pas cette sorte d'obligation-là, politique, morale, qui peut même être étouffante, qui peut même être pénible pour les habitants, qui est de on s'auto-contraint à ce souci du bien commun. C'est même, on se juge les uns les autres, ça fait partie du jeu aussi. On est jugé, on s'expose au jugement parmi nous et parmi les autres, à savoir, est-ce que vraiment on est ouvert au quartier, est-ce que vraiment est-ce que vous n'êtes pas des bobos finalement qui s'enfermaient, ou est-ce que, voilà, on s'expose toujours à ce genre de jugement. Alors qu'il n'y a pas forcément ce jugement-là pour n'importe quel autre projet d'habitat qui tout simplement ne se présente pas comme un projet politique. En ce sens-là, moi je dirais que ce n'est pas un bien de club. Je ne sais pas ce que tu en penses, si ça correspond à ce que tu dis.
Je suis assez convaincu, je comprends la différence. Et en tout cas, je trouve que ça permet d'expliquer la différence et de montrer que, bah, effectivement, dans un commun, il y a toujours cette notion alors, politique ou de qu'une partie de ce qui est produit soit accessible à tout le monde, hors des gens qui le produisent. Et on voit bien qu'il y a ce souci-là ou cette défense-là. Ben voilà, on est ensemble, on est un collectif, on crée de l'habité pour nous, mais on crée aussi des externalités, comme tu le disais, pour le quartier. Donc, dans ce sens-là, ça contraint, on voit aussi que ça contraint les individus qui sont dedans. C'est-à-dire que vous êtes venu pour être avec des gens, puis vous êtes obligé de faire, d'accueillir des gens dans votre salle, d'animer des apéros avec le quartier. Donc ça contraint aussi les individus qui sont obligés de faire des choses qui les intéressent ou qui ne veulent pas forcément, ou qui ne les intéressent pas, pour que ça ne soit pas qu'un bien club, justement. Donc dans ce sens-là, oui, ça me convainc. Et ça explique aussi la différence entre un bien commun et un bien club, je pense.
Juste une petite précision, toute petite. Parce que c'est des termes justes, là. On se contraint, on s'oblige. Mais il y a toujours un jeu. Les habitants disent jamais qu'ils sont contraints, qu'ils sont obligés. C'est toujours par plaisir. C'est toujours par... Il y a toujours un jeu là-dessus, en fait. À savoir, est-ce qu'on fait ça par plaisir de la rencontre ou est-ce que... Bon, voilà. C'est juste une petite précision sur les mots contrainte et obligation.
Je me tourne maintenant vers le juriste. En fait, je vais poser deux questions. Une première, c'est pour poursuivre l'intérêt politique, l'intérêt général de cette affaire. Michael, toi qui suis de près l'évolution donc, du droit de la gestion des domaines publics, du droit de propriété des collectivités publiques, selon ton analyse, est-ce qu'on va vers une extension de l'usage commun du monde ou plutôt une réduction ou une complexification ou cela conduit peut-être à une autre interrogation sur qui décide ce qu'est le commun, etc. Comment un juriste qui s'intéresse quand même aux conflits, aux intérêts, aux enjeux voit cette affaire de l'État qui semble confier de plus en plus à des privés des parties de son domaine public?
Mais en fait, je pense que pour répondre à la question, on dit l'État, mais en fait, l'État en soi, ça n'existe pas comme un bloc monolithique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a les communes qui sont dans des situations de restriction budgétaire, et d'un autre côté, l'État qui place les communes dans une situation de restriction budgétaire. Et l'État, donc, qui édicte les règles relatives à ces questions, qui vont dire, en fait, il faut que ce soit satisfait à la conciliation avec l'intérêt général. Et de l'autre, les communes qui sont dans des situations, en fait, tout simplement, de devoir trouver de l'argent pour pouvoir faire fonctionner les services publics locaux. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est de voir, en fait, cette espèce de tension dans l'évolution, justement, c'est-à-dire que jusqu'à où on peut aller dans la facturation de l'occupation du domaine public.
Et par exemple, la facturation de services de police
Oui, alors il y a deux exemples qui me viennent en tête. Le premier exemple, c'est celui qui s'est posé récemment, c'est celui de l'utilisation des distributeurs de billets. C'est-à-dire que lorsqu'on va retirer de l'argent, on est dans la rue, sur le domaine public. Et donc, certaines communes ont facturé aux banques, parce qu'effectivement, c'est vrai, ça exigeait leur activité, exigeait l'occupation du domaine public. Et là, bon, le juge a dit non, c'est un peu trop. On ne peut pas facturer aux banques. Ça a été pareil d'ailleurs pour certaines boulangeries. C'est-à-dire le fait des boulangeries qui, tous les dimanches matins, vous avez une file d'attente pas possible sur la rue, mais les communes sont allées chercher les boulangers en disant, en fait, votre activité économique exige une occupation du domaine public. Donc là, on a dit, on ne peut pas faire ça. Et parallèlement, on a eu depuis, on va dire, 5-6 ans dans le domaine de la culture, un phénomène assez étonnant qui a été la facturation des forces de l'ordre aux organisateurs de manifestations sportives et culturelles. Pour parler très concrètement, le Festival du Bout du Monde, les Vieilles Charrues, Astropolis, doivent payer les forces de l'ordre. Et je ne parle pas des services de sécurité privés. Je parle des unités de CRS qui sont avec des FAMAS et qui font... je ne parle pas de... vraiment, la distinction est importante. C'est vraiment de la police et de la gendarmerie. Et le ministre de l'Intérieur, à l'époque, c'était Gérard Collomb, avait édicté une circulaire qui généralisait, en fait, le recours à ce genre de convention. Pour vous donner un ordre d'idée, le Festival des Hurricanes de Belfort s'est fait facturer à hauteur de 250 000 euros. Pour un festival comme Astropolis, alors j'espère ne rien trahir, mais enfin, c'est quelque chose comme 20-30 000 euros. c'est-à-dire ce sont des festivals qui ont un chiffre d'affaires énorme, ça, les vieilles charrues, ça brasse énormément d'argent, mais en fait ce qui reste, enfin, il y a une année d'avance au max. Et donc du coup on voit d'un côté, on dit aux communes, ah bah non, attention quand même, etc. Et de l'autre, on va voir la facturation de la police pour assurer la sécurité de l'espace public. Et là, du coup, bon, y a des contentieux qui sont portés devant le Conseil d'État contre le ministère de l'Intérieur. Mais pour l'instant, clairement, les préfectures facturent massivement aux organisateurs de spectacles la mise à disposition des services de police. Et s'ils refusent de signer ces conventions, ils n'ont pas, par ailleurs, les autorisations d'accès au public. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment tout se mêle, la police, le service public, dans la définition du commun.
Oui, alors c'est ma deuxième question, enfin, qui a répondu en partie, c'est quelle place pourrait prendre, ou quelle place prend les juristes et l'État dans ce travail permanent autour des communs, ouais.
Bah, les juristes, ils ont un rôle... Les juristes, c'est un peu les techniciens du pouvoir, quoi. C'est-à-dire, c'est les horlogers, ils vont fabriquer l'engrenage, quoi. C'est-à-dire, la loi, c'est...
Ils commentent aussi.
Oui, mais il y a une grande distinction en droit. On dit, voilà, on fait du droit, on ne fait pas de politique. Le droit, c'est autre chose que la morale. Bon, c'est une manière de se donner bonne conscience pour ne pas en faire. Et du coup, mais cela dit, ça objective, dans les catégories juridiques, des orientations politiques.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est aussi l'objet d'un de tes articles sur la comptabilité. Donc.
C'est le fait que le droit, en définissant ce qu'est le commun, fige et naturalise cette définition. Mais en fait, cette définition, elle n'est pas figée. C'est pour ça que je me permets de rebondir sur ce qui a été dit. Il n'y a pas de définition qui tomberait du ciel et qui s'imposerait à ceux qui parlent des communs. C'est-à-dire que c'est un enjeu de lutte et ça dépend ce qu'on veut en faire, en fait. Il n'y a pas de, pour moi, au niveau du droit, quel est le rôle des juristes? Ben en fait, les juristes, qu'est-ce que la société veut faire de cette question du commun? Et les juristes doivent traduire juridiquement des orientations politiques.
Les questions du public.
Oui, alors c'était voilà. La polémique sur l'aéroport de Paris.
Ah oui.
Donc, par rapport, qu'est-ce qu'en pense le juriste entre la notion de bien public, qu'est-ce qu'a dit le Conseil d'État, si l'État abandonne de tout son rôle de régulation.
Alors, ce que j'en pense.
Pour ou contre?
Ben. En fait, c'est la question des privatisations et ça me fait rebondir sur la question de l'État se désengage. C'est-à-dire que, alors, il me faudrait un peu de temps pour les. Mais je ne crois absolument pas au désengagement de l'État. C'est-à-dire, même dans un contexte de privatisation. C'est-à-dire que l'État transforme la manière d'agir. Mais par contre, il n'y a pas de désengagement de l'État. C'est-à-dire que c'est une autre manière de faire fonctionner les biens. Par exemple, lorsqu'il y a eu des privatisations de secteurs bancaires, vous avez eu par exemple, la privatisation, prenons de tout ce qui concerne la téléphonie. On a créé une institution, l'ARCEP, qui a été chargée de délivrer les autorisations d'occupation du domaine public hertzien, donc en fait Internet, etc. Et l'ARCEP conditionne la délivrance de ces autorisations au fait que SFR, les grands opérateurs, couvrent tout le territoire. C'est-à-dire qu'à travers des entités privées, l'État agit. Pour revenir à la question de l'aéroport de Paris, là encore, je reviens à l'aspect... De toute façon, c'est l'argumentation qui est avancée essentiellement économique. C'est-à-dire de dire, en fait, ça permet de rentrer de la liquidité d'un seul coup, tout en disant qu'on reste plutôt actionnaire, ou en tout cas, en ayant le contrôle. Bah, ce que j'en pense, en tout cas, c'est que la trajectoire, pour répondre clairement, la trajectoire d'aéroport de Paris suit la trajectoire classique des privatisations, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, nous allons laisser la gestion du privé, mais nous garderons le contrôle politique de ce bien au sens large. Classiquement, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, le contrôle au terme de propriété échappe à l'État, mais à travers les institutions, l'État essaye de garder une certaine main. Maintenant, et pour prolonger, la difficulté, c'est quelles sont les institutions qui contrôlent, qui régulent les biens privatisés? Et quand on regarde dans le détail, en fait, ces institutions, ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes, si on prend par exemple l'autorité des marchés financiers, est essentiellement composée de personnes qui sont issues de ces secteurs qu'on entend privatiser. Donc c'est là que c'est problématique. Donc ce que j'en pense, c'est que y a un jeu de dupes. L'État garde la main, mais d'une autre manière, en favorisant certains intérêts économiques.
Là-bas, une question.
Oui. Bonsoir, Vincent de la Liste Citoyenne. Déjà, je voulais vous remercier pour l'organisation de la conférence, qui est un contenu très intéressant. Et en fait, c'est le point sur l'étymologie qui m'a donné envie de rebondir. À propos de l'échelle, en fait, du parallèle entre l'habitat participatif et la commune. Parce que dans les deux cas, ce serait intéressant de vous entendre sur les différences, sur les similitudes et sur le fait qu'aujourd'hui, eh bien, la commune n'est pas ou plus un commun.
C'est-à-dire ?
Oui, je n'ai pas compris. Non plus.
La commune est ?
L'origine de commune, en fait, c'est justement, il y a le mot commun également dedans. Quoi. C'est-à-dire qu'on est... On est tous habitants d'un même endroit, quoi. On a ça en commun.
Oui.
Mais en quoi la commune serait plus commun ?
Puisque sur un commun, il y a une gouvernance qui permet à chacun de s'exprimer, quoi.
Ah, d'où la liste citoyenne.
Oui, voilà. c'était pour justement, c'était le point de vue de Pierre, surtout qui m'intéressait sur l'échelle entre l'habitat participatif, puis le quartier, puis la ville.
Des réactions, commentaires.
Moi, j'ai peut-être une. C'est rigolo parce que j'étais en train d'imaginer. Enfin, ce que j'ai failli dire avant même que tu prennes la parole, et finalement, ça rejoint. Je sais pas si ça répond. Je vais pas dire ça, mais en tout cas, c'était pour poursuivre sur ce qu'on disait tout à l'heure là sur le fait que l'action de l'État change. Du coup, ça ramène à réévaluer en permanence les questions de domaine dont on parlait tout à l'heure. Les questions de domaine public, les questions de domaine privé, parce que finalement, ça n'existe plus un domaine public complètement. Enfin, en tout cas, on re-questionne ça, parce que comme il y a tellement de partenariats, ça repose la question de la propriété, qui est le grand terme qu'on avait utilisé pour cette soirée, dont on n'a finalement pas tant que ça à parler ce soir.
C'est vrai.
Mais du coup, les propriétés, les logiques de propriété changent. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont une histoire. La propriété a une histoire. Et il y a un moment donné où on est arrivé à ce qu'on appelle, ce que Benjamin Coria, par exemple, un économiste, appelle l'idéologie propriétaire. Et il dit cette idéologie propriétaire-là, c'est pas forcément privé. C'est l'idée que tout doit être pour toute chose. Maintenant, doit y avoir un propriétaire. Ça s'est créé avec la révolution industrielle. En se disant, si c'est pas une propriété privée, c'est une propriété publique. Et dans ce cas-là, si c'est une propriété publique, ça veut dire que c'est l'État qui est propriétaire. Et si c'est l'État qui est propriétaire, ça veut dire que c'est l'État qui a la propriété absolue sur le bien et exclusive. Ça veut dire que si c'est l'État, c'est pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une construction, parce que c'était pas comme ça avant. C'est en confrontation avec ce qu'on appelait avant les communaux, qui étaient des formes de communauté, de propriété, qui n'étaient pas exclusives, qui étaient... Alors moi je dirais inclusif, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas qui était démembré, qui n'était pas absolu. Et ça rejoint vraiment cette notion-là d'État et de commune, à savoir la première intention de l'État n'était pas des révolutionnaires politiques de 1789, n'était pas de dire que l'État devait être propriétaire du bien public. Ce n'était pas ça du tout l'idée de 1789. C'était l'idée que c'était les citoyens qui devaient être... ils n'utilisaient pas le terme propriétaire, ça n'avait pas de sens, mais en tout cas, qu'ils devaient gérer le... Je ne sais même pas comment on disait, c'était le bien public, mais en tout cas, le... Comment ?
Garder le domaine national.
Le domaine national, effectivement, on disait domaine national. Et après, progressivement, de manière pragmatique, alors on peut voir comment ça s'est fait ou quoi, on peut le trouver bien ou pas bien, mais en tout cas, progressivement, c'est le bien public, le domaine public, a transformé son sens et est devenu la propriété de l'État. Et on pourrait dire la même chose pour les communes, qui initialement sont plutôt l'idée que c'est une communauté, en fait, que c'est une communauté qui s'autogère. Et la commune de Paris, c'est vraiment cette idée-là. Et là, maintenant, on est arrivé, je ne saurais pas quand, ça sera sans doute mieux le dire, à l'idée que la commune de Brest est en fait propriétaire de terrain et propriétaire de biens. La communauté de communes est aussi propriétaire. Enfin, il y a un échelon, différents échelons, mais du coup, à savoir, c'est le domaine de qui, c'est qui propriétaire de quoi. Voilà, c'est dans une logique de propriété. Et que cette logique-là de propriété, qui s'est bien installée avec les décennies, en quelques siècles, aujourd'hui, elle est remise en cause à nouveau. C'est en cours. Et du coup, je pense que c'est là qu'arrive cette notion-là de commun, qui veut dire plein de choses, mais qui veut toujours quelque chose, qui veut toujours dire quelque chose de l'ordre du retravail des domaines, des partenariats.
Je peux me permettre de. Enfin, pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est vrai que je trouve qu'on sent quand même, pour revenir sur cette histoire de propriété, on sent que la notion même de propriété, elle est quand même très lourdement travaillée, et même dans l'espace public, on va dire, de discussion très large. Enfin, je pense au bouquin de Thomas Piketty, là, qui est sorti récemment sur Capital et idéologie. C'est vraiment une remise en cause, peut-être pas complète, mais en tout cas très forte, de la notion même de propriété. Et ce qui est assez. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez étonnant. On a le sentiment qu'il y a une espèce de constat que le régime de propriété classique, propriété privée, etc., n'est pas efficace du point de vue environnemental, du point de vue économique. Donc on a cette conscience-là. Et de l'autre côté, on a quand même une amplification des logiques propriétaristes dans le droit, droit public, droit privé. Et là, pour le coup, je n'en sais rien, mais j'ai du mal à comprendre, d'un côté, presque une accélération de ce régime propriétariste, et à côté de ça, une réflexion, justement, de ralentissement là-dessus.
Moi, je remercie Pierre d'avoir fini là-dessus, sur la propriété, parce qu'on avait fait un grand pilier. Il y a la communauté, les ressources et... la gouvernance dans la notion des communs, et il y a évidemment les faisceaux de droit, qui ne sont pas des titres de propriété, mais qui sont des faisceaux de droit. On arrive à l'issue de cette rencontre. Dernière. Non,
enfin, si ouais. On n'a pas vraiment répondu à votre critique.
C'est le titre de la soirée, c'est-à-dire est-ce une propriété alternative ou une alternative à la propriété, je
pense. Oui, oui, on n'a vraiment pas attaqué bien en tête cette notion.
C'est très clair que enfin, ce que disent les communs, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a repris beaucoup Ostrom, et qu'elle dit, en fait, finalement, la propriété ou le droit, comme d'autres, la coutume ou la technologie, ça permet à des gens de faire des choses, d'avoir des droits. Et d'exercer finalement ces droits sur quelque chose. Des droits qui peuvent être des droits de contrôle, des droits d'exploitation, des droits d'accéder ou de faire des choses. Et moi, enfin, j'interprète ça comme finalement la propriété est renforcée, parce que des acteurs veulent renforcer leur possibilité de faire des choses, leur possibilité d'action. Mais en même temps, on sent bien qu'un certain nombre de droits ou de capacités de faire leur échappent. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est peut-être moins important d'avoir une voiture que ça l'était il y a quelques années. Mais par contre, on a plus de possibilités de se déplacer. Donc ce qui est important, c'est le droit de se déplacer. Ce n'est pas forcément le droit de posséder une voiture. Et je pense qu'il y a cette tension-là aussi où finalement, il y a certains propriétaires de droits ou de propriétaires qui veulent renforcer parce qu'ils défendent leur accès à des choses, et en même temps une société qui est en train de reconstruire autre chose à côté. Et c'est peut-être aussi ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les faisceaux de droit dont tu parlais, droit de contrôle ou droit d'exploitation, sont peut-être en train de se reconstruire à côté. Et pour revenir sur la gouvernance d'une commune, puisqu'on va tous voter bientôt pour la gouvernance de notre commune, ce qu'on essaie de dire aussi, c'est que, et ce que tu as bien expliqué dans l'exemple de l'habitat partagé, c'est qu'une gouvernance des règles, des droits, des faisceaux de droits, c'est une négociation permanente. Et peut-être qu'à Grenoble, la commune ne donne pas les mêmes droits aux personnes ou aux collectifs, aux individus. Peut-être que le garantit qu'il y ait une gestion centralisée, une délégation de gestion. Ça permet aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, une certaine homogénéité sur le territoire. On sait bien que si on dit tout le monde peut s'exprimer, ou on laisse des initiatives citoyennes, ben c'est ceux qui ont les capacités intellectuelles, financières, enfin le capital social, qui vont s'en emparer d'abord. Et donc, ça va être dans mon quartier, à Saint-Martin, qu'il y aura le plus de choses qui vont se faire. Est-ce que c'est ça aussi qu'on veut ? Donc c'est tout ça qui est en négociation et qui aussi rend les choses, je pense, compliquées, mais aussi intéressantes à débattre.
Je trouve que c'est une belle conclusion. Il y a une question. Mais à moins que...
Ouais, c'est comme...
Non, allez-y, ouais.
Oui, en fait, j'ai du mal à comprendre vraiment la définition du commun. Parce que pour moi, elle est...
non, mais,
je sais bien. Mais en fait, parce qu'elle me semble très très proche de la définition juste de la politique, de police, gérer la cité. Au final, l'État est une sorte de commun. C'est un commun qui a émergé avec des règles, et notamment des règles sur la propriété. Donc, est-ce que le commun n'est pas simplement en fait un mouvement avec de nouvelles valeurs qui a pour objet d'arriver à modifier les règles d'un commun à un plus haut niveau, au niveau d'un État. Et on pourrait voir le commun en fait à plusieurs niveaux, au niveau juste d'un habitat partagé, d'une commune, d'une région. Je ne vois pas très bien la différence en fait. C'est entre politique en fait et commun. Et vous parliez de démocratie, et souvent les deux définitions se rejoignent en fait. Comment on gère un espace ou des ressources qui nous sont attribuées en commun ?
Alors, moi, je n'ai pas de problème, parce que je réserve commun à la notion d'une ressource exclusive, non exclusive, rivale, etc. Mais après, ce dont vous parlez, c'est l'action collective, ou le faire ensemble. Et oui, là, évidemment, il y a des choses qui se rejoignent, des discussions, et oui, une fois de plus, il y a différents niveaux d'action collective, il y a un niveau institutionnel, de règles, d'acteurs, etc. Donc bien sûr que derrière ça, on a discuté aussi de l'action collective de manière générale. Ça, bien sûr, je suis bien d'accord. Est-ce qu'il faut l'appeler commun ? Je pense qu'on ne sera pas d'accord.
T'as répondu, Didier. Moi, je me suis donné les définitions, et à partir de mes définitions, je peux penser clairement les choses. Ouais, c'est l'intérêt d'avoir des scientifiques. On peut repartir de leurs définitions, de leurs concepts et de leur argumentation. Merci donc à nos invités, Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO, Michael Lavenne, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, et Nicolas Julien, enseignant-chercheur à IMT Atlantique. Pour poursuivre la réflexion sur les communs, quelques conseils d'ouvrage. Les biens communs, un modèle alternatif pour habiter nos territoires au XXIe siècle, sous la direction de Perrine Michon, aux presses universitaires de Rennes 2019. Vers une république des biens communs, sous la coordination de Nicole Alix, Jean-Louis Bancel et Benjamin Coria, édition Les liens qui libèrent 2018. Et enfin, l'ouvrage de la prix Nobel d'économie en 2019, Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs pour une nouvelle approche des ressources naturelles, édition de Bouëc 2010. Vous pouvez consulter ou emprunter ces ouvrages dans le réseau des bibliothèques universitaires de l'UBO. Dans le prochain numéro du Lab U, nous nous intéresserons à l'histoire des classes de mer en Bretagne avec Malo Camus, doctorant au CRBC, le Centre de Recherche Bretonne et Celtique, et à l'École Doctorale Société Temps Territoire. À suivre dans le prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur les pages médiation scientifique des bibliothèques universitaires de l'UBO.